Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on est fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission du lundi 4 novembre 2019, nous écouterons évidemment un petit peu de vos messages répondeurs. Il y en avait un petit peu, on a retrouvé, on est content. On espère qu'il y en aura plus après voilà, cette période de trêve de vacances de la Toussaint. Et puis aujourd'hui on vous proposera une interview en deux temps, une rencontre réalisée dans un bar à Rouen avec un des contributeurs du média Rouen dans la rue, pour vous parler déjà dans un premier temps globalement de ce que c'est que Rouen dans la rue comme type de média, les activités qu'ils ont, et puis l'organisation d'un débat qui a pour titre comment sortir de l'impuissance écologiste actuelle. Ça se passe vendredi prochain, le 8 novembre, du côté de la Halle aux Toiles à Rouen, à partir de 18h me semble-t-il. On confirmera ses horaires très rapidement. Voilà, on fera évidemment un détour du côté des bons plans de façon plus globale, avec pas mal de concerts à vous annoncer et d'autres événements et réjouissances. Le tout vous sera servi avec du bon son, de la bonne humeur, des bons plans, en tout cas on l'espère. On va gentiment se dire bonjour et vous retrouver en toute amicalité, bonheur et joie de vivre depuis les vacances là, avec le camarade Jonathan Jérémiac. Certains ont pu et certaines ont pu rencontrer, voire aller écouter du côté du 106 à Rouen il n'y a pas si longtemps que cela. C'était il y a deux semaines, pour être tout à fait précis. Jonathan Jérémiac avec le titre Good Day, qui est le titre de son dernier album. On écoute ça tout de suite. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR. I see the kids, they're running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing la, 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 la. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. You're on the ninth street with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing this is how it feels when a good day comes along. Thank you.
on the 9th Street. Soon we'll be back on track. Knock, knock for Ruben. Come and kill some time on the heroin crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, you'll have what you have. Yeah, this is how it feels when a good thing comes along. This is how it feels when a good day comes along. This is how it feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels, this is how it feels. This is how it feels when a good day comes along.
Le crooner britannique Jonathan Jeremiah avec ce morceau Good Day.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 dans le sud du département de l'Eure et 99.1 sur Rouen et son agglomération, évidemment.
Allô Timothée, c'est Lucette de la radio Superactive, n'est-ce pas? Je suis maintenant à Louviers, ça va mieux. J'ai eu plusieurs au téléphone, donc à la limite, je suis d'accord pour enregistrer un compte sur Noël. Voilà. Bonjour à tout le monde cet après-midi et travaillez bien. Bisous.
Voilà, certains et certaines l'ont peut-être reconnu, c'est Lucette du groupe des Seniors Actifs avec qui on anime une émission voilà le troisième jeudi de chaque mois. Donc ça tombera. Ben, c'est une bonne question, j'ai oublié la date. En tout cas, on les retrouvera avec ben voilà une proposition de Lucette nous comptera un compte autour de Noël. Et si comme Lucette, vous voulez nous laisser vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos, ou tout simplement nous faire des nouvelles, nous donner des nouvelles, nous faire des petits bisous, on aime bien. Pour ça, un seul numéro, 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre. On repart en musique avec un groupe qui s'appelle La Fin du Tigre. Le morceau s'appelle Kingdoms.
Senses.
La fin du tigre, autant pour moi le titre c'était Senses, Kingdom c'est le nom de l'album. Et pour ceux que ça intéresse, la prochaine émission de Vous à nous aura lieu le jeudi 21 novembre de midi et demi à 13h30 sur les antennes de Principe Actif, évidemment.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans être...
Oui. Principe Actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, Principe Actif.
Nous sommes avec un contributeur du média Rouen dans la rue pour évoquer un débat qui a lieu vendredi prochain, vendredi 8 novembre, à partir de 18h du côté de la Halle aux Toiles, qui a pour titre « Comment sortir de l'impuissance écologiste actuelle ?» Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est quoi un peu Rouen dans la rue? Quel genre de publication vous faites et sur quel support ça se passe?
Alors Rouen dans la rue, ça a commencé par une page Facebook. Voilà, en 2014, si je me trompe pas, donc ça a suivi. En fait, c'est une page Facebook qui est née dans l'espèce de mouvement qui a suivi la mort de Rémi Fraisse, le militant écologiste qui a été tué par un gendarme sur la ZAD de Sivens. Voilà, ça avait un peu amorcé un espèce de mouvement de contestation. Enfin voilà, pour dénoncer cette atrocité. Et en gros, il y a eu un peu des manifs sur Rouen, des actions, etc. Et donc cette page-là est née au cours de ce mouvement-là pour essayer de modestement coordonner les actions, en faire des comptes rendus, etc. Et du coup rendre un peu visible ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Et donc après, au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup ce mouvement-là, finalement, enfin la mort de Rémi Fraisse est finalement passée comme une lettre à la poste, comme on dit. Enfin voilà, le pouvoir n'a pas du tout tremblé à la suite, n'a pas été du tout affaibli à la suite de ce désastre. Et grosso modo, la page a continué, disons, à être un espèce de média des luttes locales. Voilà, dès qu'il y avait un peu des mouvements sociaux, des grèves, voilà, des dynamiques de contestation, Rouen dans la rue a toujours cherché à voilà en faire des comptes rendus, clarifier un peu la situation, relayer les appels, et finalement être une espèce de voix de l'intérieur de ces luttes-là, quoi, pour essayer de contrebalancer généralement les discours des médias dominants qui soit les caricatures ou voilà n'en retranscrivent pas la complexité, voilà.
Une sorte de caisse de résonance, mais aussi initiateur de choses et d'autres. On parlait de l'aspect média, la page Facebook, le site internet. On peut vous suivre notamment sur Facebook avec des vidéos. Il y a des textes aussi qui sont publiés. Et puis, il y a cette dimension aussi, organisation d'événements. Ça nous amène au débat de vendredi prochain. Mais comment c'est... Est-ce que c'est facile de se positionner entre le côté, on va dire, journaliste, même si on sent le fait que c'est engagé, ça se veut pas neutre, et en même temps quelque part agitateur, ou en tout cas avec l'envie d'initier, d'amorcer une dynamique, notamment sur Rouen et sur l'agglo.
Disons qu'à la suite de quelques turbulences qu'a connu la page Facebook, on a finalement décidé de principalement relayer des appels qui émanaient déjà depuis la rue, depuis des groupes, différents groupes de lutte. Voilà, parce que être à l'initiative de ces événements qui pourraient éventuellement déboucher sur des exactions, etc., c'est des choses qui malheureusement aujourd'hui sont pénalisables, judiciarisables. Voilà, du coup ouais, effectivement l'idée c'est de à la fois relayer ce qui se passe tout en essayant de donner un peu une sorte d'analyse. Enfin, en fait, on vient pas de nulle part, quoi. On est nous-mêmes des protagonistes de ces mouvements-là. Enfin, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, par exemple, la question des ZAD. Enfin, voilà, comme on évoquait aussi le mouvement qu'a suivi la mort de Rémi Fraisse. Enfin, on est aussi partie prenante de ces luttes-là. Donc, effectivement, il y a une frontière hyper floue, finalement, entre être protagoniste des mouvements et s'en faire le relais comme une sorte de média. Du coup, ouais, on peut pas dire que c'est l'objectivité la plus totale. Il y a quand même voilà quelque chose qui est de l'ordre du parti pris et voilà assumer une position aussi au sein des mouvements. Voilà. Du coup, maintenant on cherche à plus trop être à l'initiative de manifestations, etc. Voilà pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Par contre, l'idée de de faire se rencontrer les gens qui suivent le média pour continuer à affiner des positions, se retrouver, s'organiser éventuellement. Voilà, ça on cherche toujours à le faire. Et c'est pourquoi on lance là le débat sur l'écologie la semaine prochaine. Voilà, ce qu'on pense que c'est un sujet qui est crucial actuellement et qu'il faut réussir un peu à démêler. Donc voilà.
En effet, pourquoi ce débat? C'est un peu la question qui nous réunit aujourd'hui. En aparté, j'entendais, avant qu'on se retrouve aujourd'hui pour cet échange à la radio, que l'écologie serait devenue le sujet numéro un de la préoccupation des Français. Ça prêterait presque à sourire, mais votre regard là-dessus, ça évoque quelque chose pour vous en particulier?
Ouais, ça évoque beaucoup de choses. Disons que la question écologiste, c'est devenu une sorte de, on peut dire, un espèce de phénomène de société là depuis au moins 5-10 ans. Alors même que, enfin, disons si on reprend depuis le début, en gros, dans les années 70, il y a eu un espèce de rapport qui a été fait par des scientifiques qui disaient que voilà, il y a, disons que le développement du capitalisme et donc de la production industrielle avait des effets considérables en fait sur notre environnement. Ce truc-là, plus ou moins, c'était le rapport du Club de Rome en 72, et ce truc-là a été plus ou moins mis de côté pendant tant d'années, et en fait. Il y a eu différentes sonnettes d'alarme dans les décennies dans les dernières décennies et finalement ce sujet-là a constitué une sorte de menace en fait pour la continuité du capitalisme. Et comme toute menace, le capitalisme cherche à se les réapproprier, à les réintégrer finalement à sa sauce. Et donc maintenant, l'écologie est devenue cette espèce de phénomène de société qui, du coup, devient une préoccupation, y compris pour, on va dire, les décideurs et les puissants, puisque en fait, c'est la condition même de la prolongation finalement du capitalisme. Donc d'un côté, on cherche à le refaire à la sauce capitalisme, donc le capitalisme vert. Tantôt, on essaye de se racheter une bonne conscience, notamment dans les personnes qui peuvent se permettre de consommer bio, etc. Et puis voilà, il y en a d'autres qui tentent de dire non, mais en fait, c'est ce système-là en tant que tel qui est problématique, et du coup, il y aurait peut-être des solutions éventuellement plus radicales qui pourraient nous, limiter les dégâts de la question environnementale. Et, voilà.
Il est clair que le mot écologie a pas la même signification en fonction de qui le prononce. Ça nous amène un peu très concrètement à ce débat. Je rappelle le titre, comment sortir de l'impuissance écologiste actuelle. Qu'est-ce que vous entendez par ces termes-là, notamment impuissance écologiste? Est-ce que c'est l'impuissance du mouvement écolo? Vous en parliez un peu à l'instant, cette prise de conscience, notamment avec les rapports scientifiques qui datent des années 70. Déjà, donc il y a dans certains milieux scientifiques mais aussi militants quelque chose qui est apparu très très tôt. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette idée-là? On parle de l'impuissance du mouvement écolo, on parle de tout simplement l'impuissance de la société humaine qui est face à quelque chose de l'ordre, peut-être si on va un peu loin de l'extinction, sixième extinction de masse pour la faune et la flore, mais aussi peut-être en perspective l'extinction de l'espèce humaine. Enfin, aujourd'hui, on entend plein de discours à tendance apocalyptique. Ça inclut plein de choses. Est-ce que c'est un peu ça aussi que vous allez chercher à questionner dans ce débat-là et laisser les différentes tendances s'exprimer? C'est un peu confus comme question, je te l'accorde.
disons que par, enfin en fait, Il y a un truc paradoxal dans le fait de convier finalement les gens à se retrouver autour de ce débat, c'est que on peut dire qu'il y a une forme d'impuissance à l'égard de la, je sais pas, la rébellion écologiste ou voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de très visible. Enfin, on peut dire que là, les dernières années, il y a eu une succession de marches pour le climat, marches du siècle, grève pour le climat, l'arrivée sur la scène d'Extinction Rébellion. Enfin, plein de choses qui finalement ont été relativement médiatisées. Voilà, qui est devenu un espèce de phénomène de société. Mais en même temps, on peut constater que ces mouvements-là, bon voilà, c'est très hétérogène, mais ont globalement tous été pris dans des pièges, les pièges de la récupération politique, dans des formes dans lesquelles on les attendait, à savoir, en tout cas, on peut dire que l'une, voilà, la grosse impuissance de ces mouvements-là, c'est quand même de considérer les puissants et les décideurs comme des interlocuteurs crédibles, voilà, pour éventuellement réclamer quelque chose, demander un changement de cap, des réductions de gaz à effet de serre, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on interpelle les responsables du désastre comme ceux qui pourraient être à même de nous sauver. Donc ça, il y a quelque chose de fondamentalement impuissant et en fait perdu d'avance dans cette démarche-là. Voilà. Il y a une autre forme d'impuissance qui est celle de ce qu'on appelle l'écologie des petits gestes, c'est-à-dire l'idée que finalement il faudrait consommer bio, local, trier ses déchets, prendre des douches courtes, éviter de prendre l'avion, ce genre de choses, ce qui fait que finalement il y a une marge du monde qui est celle-ci, et on va nous demander, nous, à échelle individuelle, de culpabiliser, éventuellement de se restreindre, une espèce de nouvelle morale finalement qui viendrait contrôler les corps et les habitudes. Et enfin, pour nous, l'autre forme d'impuissance, c'est peut-être que c'est pas seulement la forme, mais une question de référentiel, c'est qu'il y a une telle avalanche de rapports, même maintenant vous allez sur Netflix, tous les documentaires parlent de l'extinction, de la fin du monde. Enfin, en gros, il y a une pop culture autour de ça qui est hyper présente, mais l'erreur systématique, c'est de la retranscrire comme mondiale, c'est-à-dire dire voilà, il y a une catastrophe qui se fait à échelle humaine, à échelle mondiale, et finalement la considérer comme telle, c'est nous rendre impuissants, nous paralyser, parce que il y a une telle ampleur que finalement on peut rien faire. Et donc nous, ce qu'on propose là via ce débat, c'est éventuellement de déconstruire certaines illusions, donc considérer les puissants comme ceux qui pourront éventuellement nous sauver, considérer les petits gestes comme éventuellement ceux qui pourraient nous sauver moralement, etc. Et enfin, la question de l'échelle, quoi. Est-ce que finalement l'avalanche de rapports, les sonnettes d'alarme systématiques sont la bonne échelle à laquelle penser cette question? Et nous, on serait plutôt porté à penser, à croire que c'est plutôt depuis des formes de solidarité localisées, peut-être des pratiques diffuses, locales, mais pour autant offensives, etc. Enfin voilà, il y a plein de pistes. Pourtant, on n'a pas de réponse, mais il y a plein de pistes qu'on aimerait éventuellement évoquer avec des gens qui sont intéressés au moins par les termes du débat, quoi.
Et dans ton plumard t'angoisse, aujourd'hui tous les nuages sont noirs. Tu te dis faut que tu te barres, mon gars. Tu vis dans un putain de cauchemar. Je vais être catégorique, oublie les actes héroïques. Mensonges, trahison, crime, on vit dans un état terroriste. Y'a une usine, c'est Céveso qui brûle. L'alerte fut lancée presque 6 heures après, ouais, c'est de la folie pure. 22 km de fumée, crado circule. Un ministre vient pour assurer les naïfs. Pas sûr qu'il passe à la caisse. Et c'est pas le PDG de l'usine qui nous dédommagera et ramassera la merde. Mère, si Lubrizol, grâce à toi les oiseaux ont le cul qui colle. Personne ne t'a dit qu'il fallait que tu t'isoles. Toute la ville ne respire que des trucs ignobles. Ils donnent le droit d'agir en cachette, car pour eux on est que des merdes de pauvres. Chirac nous a volé la vedette, même mort il leur a volé quelque chose. Les politiques sont bons qu'à piquer dans la caisse, incapables de gérer une crise. C'est des purpitres, des cerbères ultimes, que des massacres en masse dans leur CV sublime. L'enfer c'est les autres et les zones c'est Céveso. Ils sont possédés faux, que tous ces faits les sont. Aucune justice ne va accélérer les choses. Dans des oreilles fermées tu vas plaider des causes. On assiste à un holocauste chimique et y'a personne pour apaiser nos misères. Toutes ces tristes brutes nous pissent dessus comme on pisse sur leur putain de thèse officielle. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille, à part que le monde part en vrille. J'suis comme une grosse part dans le bide.
mais tant pis, je bombarde l'Empire. Maintenant quand je me balade, je suis inquiet, poteau. Je crois bien que le malaise me suit. En Bretagne, ils ont les galettes bretonnes. En Normandie, on a les galettes de suie. J'invite ces menteurs à venir en bouffer, histoire qu'on voit si c'est pas toxique. On a mal au crâne, on a des petits yeux. Tous ces salauds défient Dieu, c'est que des mafiosi.
Bloqué sous un nuage immense, on crève en silence. Baigné dans la nuisance, on a vu l'évidence. Un énième prix je lance, tous victimes de la finance. J'aimerais rester à distance, je tousse avec insistance. Que valent nos existences? Bloqué sous un nuage immense, on crève en silence. Baigné dans la nuisance, on a vu l'évidence. Un énième prix je lance, tous victimes de la finance. J'aimerais rester à distance, je tousse avec insistance. Que valent nos existences?
Pas besoin de te faire un dessin, mot de tête incessant, mais qu'on n'a plus de souffle. Je quitterai Rouen sans me retourner pour ne pas finir en statue de soufre. Zone Céveso, Lubrizol, combien d'autres? Faut vite qu'on change de place. C'est un empoisonnement de masse et Chirac nous a volé notre moment de grâce. Omis n'est pas drôle, funeste en fumage, j'ai la tête dans les nuages. Toxique mais pas trop. Norme, maudit norme, anti nocif, c'est le bas de gros. Le poison lentement se répand, mais ils nous mentent comme à des enfants de 7 ans. On veut la vérité, on ne cherche pas l'homo. Je réclame réparation, manie la doive aux mômes. C'est une crise écologique, goutte au cocktail mortel d'amiante de benzène. Catastrophe technologique, roi et tordel, bordel, je veux pas prendre de pincelle. Si tu méfies, tu finis stupéfait. J'encule la parole du ministre, du préfet. Ces poisons, les oiseaux, les poissons ne sont plus très frais. Ernobile, v'là l'endroit. Cousine, oublie vite la balle dans le bois. Car la dioxine avance droit sur nous. Tant pis pour ceux qui ne bossent pas à France 3. Tu sais, Nara, je pense à ta vie, je suis pas loin de péter un poulon. Lentement, mais sûrement, à petit feu, nous mourrons. De sombre officine, officie, un ennemi invisible visite nos poumons. Si on le pouvait, on aurait déjà fait nos valises. Marre de respirer du cancer, y'a comme un parfum d'apocalypse. Man. Comme d'hab, les autorités ont dit qu'on ne courait d'aucun risque. Blague. Qui seront les premiers à crever? Allez-y, lancez vos paris. Blah. Fatalité morbide, natalité hors piste. Nick BFM écoute l'analyse des nordistes. Livré à nous-mêmes, on a dû s'isoler. Rouen, c'est chaud, tu vas te faire lubrisoler pour pollution. On est tous amers, refrais. Corruption, c'est toujours la même. Le fret, il a plus des galettes. De fait, nos vies valent moins que celles de Warren Buffett.
Bloqué sous un nuage immense. Crève en silence, baigné dans la nuisance, on a vu l'évidence. Un énième cri je lance, tous victimes de la finance. J'aimerais rester à distance, je tousse avec insistance, que valent nos existences? Bloqué sous un nuage immense, on crève en silence, baigné dans la nuisance, on a vu l'évidence. Un énième cri je lance, tous victimes de la finance. J'aimerais rester à distance, je tousse avec insistance, que valent nos existences?
Les MC rouennais Narrateur et Don John, c'était le morceau Lubrizol, évidemment.
Le pire reste à venir, tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
Et on poursuit l'écoute de notre rencontre avec cet honorable contributeur du média Rouen dans la rue pour vous parler du débat comment sortir de l'impuissance écologiste actuelle qui a lieu, rappelons-le, vendredi prochain 8 novembre à partir de 18h du côté de la Halle aux Toiles à Rouen.
En effet, ce débat, il s'adresse un peu à tous ceux qui se sentent concernés par les questions que vous venez d'évoquer, et on imagine que potentiellement les différentes tendances de ce mouvement écolo pourraient s'y retrouver, des différences de vision, de constat, où nous en sommes, les différences aussi de méthodes, de moyens d'action, notamment dans la lutte, dans les pratiques militantes. Il y a ce débat interne et externe aussi, puisque depuis les gilets jaunes, les marches, voilà, la fameuse convergence des luttes que tout le monde appelle de ses voeux, mais au final on se rend compte que qui la veut vraiment, et c'est plus compliqué que ça. Je sais pas si je vais réussir à formuler une question au bout de ça, mais peut-être votre regard un peu, j'ai l'impression qu'on est aussi au cœur du débat que vous souhaitez avoir ce vendredi-là.
Ouais, clairement, en fait, il y a l'autre source de motivation autour de ce débat, c'est que, en fait, depuis l'intérieur même de ce mouvement-là, du mouvement écologiste, et notamment des youtubeurs très influents, donc Partager c'est sympa, donc Vincent Versa, mais aussi voilà une myriade de youtubeurs et de gens qui sont assez influents sur la toile, sont eux-mêmes dans un processus de remise en question. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que ce à quoi ils ont appelé depuis des années, etc., ils se disent, mais en fait, ça fait 5 ans qu'on fait ça, on appelle à des marges du siècle, et demain, à quoi on va appeler, en fait, juste, ça sert à rien. Et effectivement, peut-être que cette remise en question-là, elle a été nettement accéléré par l'irruption des gilets jaunes, parce que finalement, il y a une anecdote qui est quand même très importante à retenir dans ce mouvement, c'est que le 8 décembre 2018, donc c'était l'acte 4 des gilets jaunes, donc le moment vraiment de pic en fait du mouvement où voilà les blindés de la gendarmerie ont été déployés sur Paris, le moment où voilà le pouvoir avait du moins un peu tremblé. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu cet acte 4 des gilets jaunes, mais simultanément il y avait des marches pour le climat qui étaient organisées. Donc parfois il y a eu des convergences, voilà, diverses et variées. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le 10 décembre il y a eu l'allocution de Macron qui annonçait, qui parlait de la situation du pays et qui lâchait finalement une hausse de la prime d'activité. Enfin voilà, qui semblait en tout cas lâcher des, quand bien même des miettes, qui lâchait quelque chose après seulement 3 semaines de mouvement très intense qui s'est c'était un mouvement, le mouvement des gilets jaunes qui s'était notamment révélé incontrôlable, violent, qui occupe des ronds-points, qui bloque tout, etc. Et en fait, il n'y a eu aucun mot sur la question écologiste, alors même qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont marché pour le climat ce même jour, enfin le 8 décembre. Et en fait, c'est ça, donc de fait, il a donné raison, d'une certaine manière, il a donné raison à l'espèce de d'irruption sauvage et incontrôlable d'un mouvement qui a fait trembler et qui en fait de fait a fait a provoqué quelque chose quoi. Donc bon, peut-être que c'est insuffisant la hausse de la prime d'activité, je pense que tout le monde est d'accord, mais voilà, en tout cas il a révélé que tous ceux qui sont exclus de la scène médiatique et politique, l'une des armes qu'ils ont en leur possession, c'est celle-là, c'est celle de faire l'irruption sauvagement dans les rues. Et en fait, pour moi, il y a une différence fondamentale entre ceux qui se mobilisent, qui se sont mobilisés après le 17 novembre 2018 et la plupart des personnes qui se mobilisent pour le climat, c'est toute la différence qu'il y a entre la conscience et la nécessité. C'est-à-dire que un certain nombre de jeunes militants pour le climat, combien même ils sont de bonne volonté et honnêtes, et voilà, ils ont toutes les bonnes raisons de se manifester, mais en réalité les gilets jaunes ça a été une question de nécessité, et donc quand il y a la nécessité il y a l'efficacité, il y a les pratiques qui paraissent évidentes. Et donc les gilets jaunes se sont jamais posé la question de est-ce que des pratiques violentes sont favorables ou non pour le mouvement. En fait c'est arrivé comme ça parce que c'était quelque chose finalement de nécessaire par rapport à des conditions de vie, par rapport à une expérience vécue, et non pas par rapport à une conscience et à une idée de massifier. Enfin, à aucun moment, moi j'ai participé quand dans la rue notamment on a activement participé à ce qui s'est passé sur le rond-point des vaches près de Rouen, la question de la violence, elle était en fait elle a jamais été abordée comme telle. Elle a jamais été est-ce qu'on va être bien vu, pas bien vu, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Non, c'était une pratique en quelque sorte qui s'est imposée comme étant quelque chose d'évident, bloquer les flux, prendre d'assaut les symboles du pouvoir, acculer le pouvoir politique à lâcher des choses en le touchant par ce par quoi il est tenu vraiment, à savoir les flux économiques, sa symbolique. Donc voilà.
Vous parliez à l'instant du rond-point des vaches, je suis passé par là en venant pour cet entretien, et j'ai vu qu'il y avait de nouveau des gilets jaunes. Là, on est à presque un an du départ du mouvement. On a annoncé son essoufflement dans les médias quasiment toutes les semaines depuis un an, et pourtant il y a encore des gens aujourd'hui sur les ronds-points avec. Pour rester quand même sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, des convergences ponctuelles avec le mouvement climat, on en a parlé, à d'autres collectifs aussi en lutte, le collectif Vérité Justice pour Adama, pardon, je suis pas tout à fait sûr du titre, mais je crois que c'est à peu près ça, suite à la mort d'Adama Traoré, Extinction Rébellion qui est arrivé plus récemment sur la scène politique et militante. Il y a ce moment aussi où on sent, on en a parlé un petit peu, cette envie, ce désir de converger, Et on se rend compte que concrètement sur le terrain, c'est pas aussi simple. La question des diversités de pratiques de manifestations, notamment la question autour de la oui-violence ou la non-violence, c'est un peu, on va dire, l'alpha et l'oméga de est-ce qu'on marche ensemble ou pas, quoi. Encore une fois, il y a pas de question, mais là, on est peut-être déjà trop dans le débat qui aura lieu vendredi. Peut-être qu'on peut refermer un peu là-dessus, mais en tout cas, c'est ces questions de fond qui traversent notre époque et qui seront au cœur de ce que vous évoquerez vendredi.
Ouais, on a pu constater, du coup, plus ça a été dans le mouvement des Gilets jaunes, plus il y a eu, on va dire, la formulation de revendications qui, du coup, ont pu effectivement apparaître comme des revendications sociales, fiscales, environnementales. Et du coup, voilà, plein de gens qui avaient initialement méprisé ce mouvement se sont dit, bah, finalement, c'est des gens qui ont peut-être des choses en commun avec nous, etc. Donc il y a eu, en tout cas, dans les slogans, des formes de convergence. Et finalement, effectivement, sur le terrain, ça a été plus compliqué, notamment à plusieurs actes de gilets jaunes ont coïncidé avec des marches pour le climat qui parfois se sont totalement ignorées, en fait. Voilà. Mais effectivement, là, le dernier épisode en date où il y a eu finalement une convergence effective, ça a été le 21 septembre sur Paris. Voilà, mais c'était presque un accident en réalité, parce que il n'y avait pas suffisamment de gilets jaunes pour prendre d'assaut les Champs-Élysées. Donc finalement, une grosse partie d'entre eux ont rejoint la marche pour le climat. Et voilà, et de fait, il y avait aussi une attente de certains militants, jeunes militants écologistes. Il y avait aussi cette attente-là, quoi, un peu de, entre guillemets, de bordélisation de ces marches-là qui étaient bien trop pacifiées à leur goût. Et en fait, voilà, l'arrivée des gilets jaunes dans le cortège a mis un peu d'ambiance. Donc voilà, on peut dire que là, il y a eu une forme de convergence dans les actes. Et puis dans la semaine qui a suivi, il me semble, il y a eu la fameuse semaine d'Extinction Rébellion, voilà, qui avait annoncé la dernière occupation avant la fin du monde, qui s'est révélée être l'occupation d'un centre commercial, voilà, et de fait une occupation qui était aussi appelée par des collectifs de gilets jaunes, des collectifs militants. Donc il y a eu un espèce dans cette occupation, quelque chose d'assez hétérogène. Et voilà, sans rentrer dans les détails, il y a eu des choses assez chouettes et en même temps des lignes de fracture qui sont apparues plus clairement, notamment autour là du dogme de la non-violence largement portée et relayée par les militants d'Extinction Rébellion.
On avance dans cette discussion. Je voulais peut-être, avant de rappeler les infos essentielles, votre regard. Voilà, il y a un contexte aussi local particulier à Rouen. On a parlé longuement là des gilets jaunes, des démarches pour le climat, le mouvement écolo. Enfin, tout un brossé un peu sommairement, et avoir un peu votre regard là-dessus. Et aussi ce qui a marqué l'actualité récente sur Rouen et sur l'agglo, et plus largement malheureusement, c'est cet événement avec l'usine Lubrizol. Rouen dans la rue a quand même joué un rôle important dans la couverture médiatique. On a eu parfois la sensation, vu de l'extérieur, que justement les médias nationaux et évidemment la mort de Chirac est arrivée à ce moment-là, donc ça a un peu effacé le truc, mais que les médias nationaux avaient évacué la chose, et à l'inverse que les médias locaux, qui soient alternatifs, plus ou moins politisés, mais je pense aussi à Paris-Normandie ou France Bleu notamment, voilà, heureusement que quelque part ils étaient là pour couvrir un peu l'événement. Encore une fois, il n'y a pas de question.
Ben oui, à mon avis, ça c'est effectivement c'est assez notable que les médias locaux, pas uniquement militants, finalement, aient effectué une couverture assez honorable de l'événement. Et à mon avis, ça c'est, comme je le disais précédemment, toute la différence qu'il y a entre la notion de conscience et d'expérience, c'est que par exemple les locaux de France 3, de France Bleu, qui sont directement sur les quais, ont eu le panache de fumée. Voilà, on dit directement sur leurs locaux, où tu voyais des photos des employés tous masqués, voilà, donc forcément ça a dû influer sur les papiers qu'on sont sortis. Et oui, en fait, cet incident-là, il est assez révélateur sur plein, enfin bon, voilà, on a produit pas mal d'articles, d'analyses, etc. sur sur Lubrizol, et parce qu'il est révélateur de beaucoup beaucoup de choses, que ce soit sur la gestion de crise des pouvoirs politiques, sur ce à quoi on est exposé en fait en permanence en habitant à proximité de zones Céveso, sur ce que ça veut dire est-ce que la catastrophe finalement c'est quelque chose qui va arriver dans 5, 10 ou 50 ans, ou en fait est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là et qui s'intensifie par à coup, et en tout cas par exemple l'incendie de Lubrizol sol semble être une accélération de cette catastrophe-là. Et évidemment aussi sur le piège que constituent finalement les analyses, l'attente des chiffres, parce que être suspendu finalement au savoir scientifique, c'est aussi un gros aveu de d'impuissance, en tout cas du côté du peuple avec des guillemets. Donc voilà, donc pour nous ça a été révélateur de beaucoup de choses, et notamment de l'idée que il n'y a pas, enfin en fait, soit à un moment donné tout s'arrête, soit il y aura de toute façon une intensification de la catastrophe qui de manière localisée, de façon plus ou moins intense, va continuer de se dérouler, voilà, et que les pouvoirs politiques chercheront de toute façon toujours à la canaliser et pour essayer finalement de l'intégrer au cours normal des choses, en assumant oui quelques légers dysfonctionnements, mais sans crier au loup. Donc voilà, donc ça c'est ce qui nous attend, et aussi ce que ça montre, et ça c'est une chose finalement assez importante, c'est qu'il n'y a pas de dehors au capitalisme, il n'y a pas de dehors à la catastrophe. C'est-à-dire que on a rencontré des jeunes maraîchers du plateau nord de Rouen qui eux disaient mais attendez, nous ça fait des années qu'on tente des choses en dehors de l'économie, en dehors du capitalisme, on plante nos légumes, et puis d'un seul coup t'as le panache de fumée qui arrive et qui met un terme à ton expérience alternative non économique, où en fait voilà, si tout de suite et maintenant il n'y a pas déjà non seulement des expériences de ce genre là mais qui ne pensent pas aussi d'un même coup la question de l'offensive, c'est-à-dire comment tu peux mettre un arrêt à voilà aux productions nocives et à tout le risque que ça engage. Voilà, du coup ça c'est finalement une espèce de, en tout cas une accélération, on va dire, de la prise de conscience via une expérience désastreuse qui a été celle de Lubrizol.
Pour conclure, parce que je pense qu'on pourrait discuter encore un moment, le mieux ce sera de venir aborder ces sujets-là et puis tant d'autres ce vendredi 8 novembre 18h à la Halle aux Toiles à Rouen. On peut évoquer, bah, évidemment, vous rappelez qu'on peut retrouver des infos sur la page Facebook Rouen dans la rue, sur votre site internet. On peut retrouver notamment un édito qui a pour titre « Tout brûle déjà » pour résumer un peu le propos et l'idée et l'envie de se réunir ce vendredi. Et puis on peut aussi plus récemment vous écouter en audio, que ce soit sur internet ou sur HDR, la radio des Hauts-de-Rouen évidemment. Voilà, vous diversifiez aussi vos activités. C'est plutôt cool ça pour vous, j'imagine.
Ouais. Bah du coup oui, pour revenir un peu sur les différents supports sur lesquels on peut nous retrouver. Donc effectivement, il y a la page Facebook, le site, plus récemment on s'est mis à Instagram, Twitter, enfin bon voilà, en tout cas sur le réseau, on est assez présent. Voilà, effectivement, il y a eu un texte qui est sorti là en septembre qui s'appelle Tout brûle déjà. Il est trop tard pour rester calme. Donc ça, finalement, c'est un texte qui a été écrit un peu dans la précipitation pour qu'il sorte au moment des marches pour le climat qu'il y a eu le 20 et 21 septembre, hein, donc notamment des grèves, les grèves lycéennes là qui se passent le vendredi généralement avant les grosses marches. Voilà, l'idée c'était de le diffuser notamment aux lycéens qui se bougeaient un peu dans la rue, qui eux-mêmes assument totalement le fait que oui, c'est cool d'aller manifester pour ça, mais qu'en réalité ils espèrent quand même assez peu de choses. Voilà, effectivement, il y a les podcasts radio qui sont diffusés, il me semble, une fois par mois sur HDR. Et la petite nouveauté, et peut-être que là je peux en parler pendant que j'y pense, c'est qu'on est sur le point de sortir un livre sur les gilets jaunes. Donc voilà, donc d'ici le 17 novembre, et peut-être un peu avant, on annoncera sur la page la sortie d'un ouvrage de plus de 120 pages avec beaucoup de photos, donc notamment centrées autour du rond-point des vaches, parce que ça a été celui sur lequel on a été présent, et avec voilà nos analyses, et qu'est-ce que c'est venu bouleverser aussi pour nous, voilà, nous les gens qui réfléchissons à comment bouger les choses quand un tel événement, celui des gilets jaunes, surgit, quoi.
Gros challenge, sortir un bouquin de 120 pages à la date précise pour fêter les 1 an du mouvement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis bah nous on se retrouve vendredi, je le rappelle, vendredi 8 novembre, 18h à l'Eau Toile, pour ce débat, comment sortir de l'impuissance écologiste actuelle. Merci à vous, chers contributeurs du média Rouen dans la rue.
Merci.
Ça s'appelle Derrota et ça décoiffe, c'est des Espagnols. Le morceau, c'était Servidumbre Voluntaria. Voilà, avec mon plus bel accent, cet extrait d'un LP qui s'appelle Guerra Civile.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Allez, quelques bons plans, en veux-tu, en voilà. On va d'ailleurs écouter quelques extraits musicaux des concerts à venir dans la semaine. Par exemple, demain au 106 à Rouen, il y a Marc Lanegan Band. Je vous en propose un extrait dans un instant, mais on fait un peu le tour des petites choses qui pourraient peut-être vous séduire à droite ou à gauche, ou à Rouen, à Évreux ou ailleurs. Il y a des discussions encore autour des questions écologiques à Rouen demain, mardi, à 19h30, aux 3 pièces, pourquoi pas. Et puis après, vous pouvez toujours aller à ce concert de Marc Lanegan. Il y a également une discussion mercredi soir autour du peyote, magie et menace. Ça se passe donc au Diable au Corps à Rouen, mercredi, à partir de 19h. Si vous êtes du côté de Paris, je sais pas, mais j'avais envie de l'évoquer aussi, à la librairie Quilombo, il y a une rencontre avec le dessinateur Alessandro Pignocchi autour de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, je vous invite à aller voir un peu le travail d'Alessandro Pignocchi. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Avant de continuer, quelques bons plans comme ça, bon, on va écouter un peu de musique. Marc Lanegan Band en concert mardi soir au 106. On écoute un morceau qui s'appelle Sad Lover.
While I went after.
Mark Lanegan Band avec le morceau Sad Lover en concert demain, mardi, au 106.7 évidemment, à Rouen. Un autre concert au 106 qui a lieu mercredi soir, mais c'est Max Romeo. On en écoute un extrait dans un instant. Mais d'autres petites choses comme ça. Jeudi soir, il y a, on parlait de rencontres dans des librairies avec des auteurs. Il y a Mélanie Leblanc qu'on aime tout particulièrement sur cette antenne, qui sera rencontrée jeudi soir à partir de 18h du côté de la librairie L'Armitière. C'est à Rouen. Une autre discussion avec une auteure activiste, Leïla Al-Chami. Ça se passe à la Conjuration des Fourneaux. C'est également à Rouen jeudi à partir de 19h. Autour de la révolution syrienne et de ce livre qu'elle a fait paraître, Burning Country, au cœur de la révolution syrienne, donc avec l'auteur et activiste Leïla Al-Chami, jeudi 7 novembre, 19h, la Conjuration des Fourneaux à Rouen. Vendredi, il y a l'expo de l'artiste rouennais Binocle, c'est à la Outsiders Galerie, 18h, vendredi, toujours à Rouen. On a parlé du débat longuement qui a lieu vendredi soir à la Halle aux Toiles, également à Rouen, à partir de 18h. C'est proposé par Rouen dans la rue. Comment sortir de l'impuissance écologiste actuelle. Impro au silo, c'est à la MJC, le silo à Verneuil-Davray, dit-on. Vendredi 8 novembre, à partir de 19h, à la MJC, évidemment. Earth en concert au 106, mais il y a d'autres concerts avant ça au 106, parce que ça c'est Earth, c'est vendredi. Mais il y a notamment mercredi 6 novembre l'ami Max Romeo, on en écoute un extrait, bah oui, ça fait toujours plaisir, un peu de reggae. Le morceau c'est Smoky Room.
You feel the rhythm,
you feel the rhythm.
You like the rhythm,
you like the rhythm.
This a rhythm,
this is your rhythm.
A jaja rhythm,
a jaja rhythm.
You feel the rhythm,
you feel the rhythm.
You like the rhythm,
you like the rhythm.
This a rhythm,
this is your rhythm.
A jaja rhythm,
a jaja rhythm.
Meditating in a smoky room. Fire burning bright and the ashes is white. The dry is long and the weed is strong. Strong, strong, strong. I plant the seed and grow the weed. Badda weed than Colombian weed.
You feel the rhythm.
You like the rhythm.
You like the rhythm.
Rhythm.
This is your rhythm.
A jaja rhythm.
A jaja rhythm.
Doping in a smoky room. Smoke from my nose cover me like clothes. Dry is long and the weed is strong. Strong, strong, strong. I plant the weed and grow the seed.
To the rhythm.
To the rhythm.
Groove to the rhythm.
Rock.
Rock to the rhythm,
roll to the rhythm,
roll to the rhythm.
This is your rhythm,
this is your rhythm.
Ital rhythm,
ital rhythm.
Vital rhythm,
vital rhythm.
Dub to the rhythm,
dub to the rhythm.
Rub to the rhythm,
rub to the rhythm.
Scrub to the rhythm,
scrub to the rhythm.
Ah, Voilà, Max Romeo avec Smokey Room. Il est en concert ce mercredi 6 novembre du côté du 106. C'est à Rouen. En première partie, Dogo Folie, ce qui me fait me souvenir que j'ai oublié de vous rappeler la première partie du concert demain soir, mardi, de Mark Lanegan. Band, c'est Simon Bonnet. Voilà, c'est également au 106. À Évreux, il y a également des concerts cette semaine. Et il y a notamment une formation qui s'appelle Arcadian. Ils seront en concert ce jeudi 7 novembre au Cadran à Évreux. On va en écouter un extrait voilà, pour se donner une petite idée de ce que vous pourrez retrouver en concert à Évreux jeudi soir.
C'est qu'un mioche, un môme de trop. Rien qu'un gosse parmi des milliers de fous. Il est pas moche, non pas non plus beau. Pas facile de faire son nid, son trou.
Haut comme trois pommes, demi-homme. Cherche un cœur gros comme un soleil. Un petit peu d'amour en somme. Une voix pour lui dire à l'oreille. Petit, tu verras si tu crois en toi. Petit à petit. Petit, tu verras, tu grandiras. Petit, tu verras si tu crois en toi. Petit à petit. Petit, tu verras, tu t'aimeras.
Petit, tu sais, si souvent les mots résonnent bien plus fort que les coups, il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour mettre ses rêves bout à bout.
Si je pouvais dire en secret au gosse de l'époque que j'étais, qui voulait tout d'un air pressé, mais sans jamais s'aimer assez.
Voilà, un extrait de Arcadian à retrouver en concert jeudi soir au Cadran à Évreux, ce 7 novembre donc, le Club Ivoire, évidemment. Plus grand chose comme temps pour annoncer la suite des choses que vous pourriez retrouver sur la région et sur nos zones de couverture. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à l'écoute des programmes de Principe Actif et d'HDR, évidemment, 102.4, 95.9 et 99.1. Vous pouvez retrouver toutes nos grilles de programmation sur radiohdr.net et principeactif.net également. Voilà, pour connaître un petit peu quelle sauce vous allez être mangé sur nos antennes aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve vendredi matin. Demain matin, ce sera l'ami Jean-Jean. Mosquito, mercredi depuis HDR. Jeudi, c'est Pauline et son équipe. Enfin, voilà. On est ravis de ce retour de la matinale. Je vous dis ciao, ciao, ciao. À vendredi.